Donc, je suis chargée de mission pour une organisation qui s'appelle donc l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est une union qui réunit 15 fédérations, qui elles-mêmes, à elles toutes, réunissent à peu près 2500 structures artistiques et culturelles qui se reconnaissent de l'économie solidaire. Cela dit, ça sous-entend une grosse majorité d'associations, quelques coopératives et parfois des formes plus appartenant à l'économie dite plus classique, SARL, pour des raisons qui sont légales, c'est-à-dire que on travaille donc essentiellement avec le spectacle vivant, les petites compagnies de théâtre, les marionnettes, les scènes de musique actuelles. Mais quand on arrive sur ce qu'on appelle le champ de l'enregistré, donc les labels notamment, on est obligé d'avoir des formes qui relèvent de l'économie plus classique. Néanmoins, toutes ces structures se revendiquent de l'économie solidaire dans le sens où elles sont non lucratives ou à lucrativité limitée, mais surtout elles revendiquent au même titre que l'autonomie de création qu'elles dont elles sont porteuses à différents endroits. Donc, on a donc quand même des producteurs et des diffuseurs, ça a son importance. Elles revendiquent aussi une autonomie dans le choix de la gestion de leurs activités. Ce détour par ces questions de l'organisation de la production dans les structures qui sont réunies au sein de l'UFISC, parce que, je vous explique le nom, nous nous sommes constitués sur la question fiscale de la reconnaissance des activités professionnelles non lucratives. Ça a une importance parce que, il y avait un héritage associationniste dans le secteur artistique et culturel qui a vivoté pendant longtemps et il faut expliquer un peu, je pense, l'histoire du secteur artistique et culturel pour comprendre la place qu'a pris ce secteur indépendant, entre guillemets, et notamment le secteur qui se reconnaît de l'économie sociale et solidaire, mais aussi la question de l'intermittence telle qu'elle a été posée ces dernières années. D'abord, dans les années 80, il y a eu une politique publique qui s'est tournée vers les structures indépendantes, notamment les formes associatives, et qui a commencé à faire évoluer l'environnement de production, notamment en posant la question différemment, c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'un côté la création des œuvres et de l'autre leur diffusion, mais on s'est mis à développer et à reconnaître le développement de tout un tas de pratiques, notamment les pratiques en amateur animées et encadrées par des artistes, mais aussi toutes les pratiques de médiation et tous ces métiers qui sont divers et variés, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle les métiers du plateau. Ça, c'est une première transformation du paysage. Mais ce qui s'est passé au même moment, le régime de l'intermittence est un. Alors, le régime de l'intermittence est un régime. Le régime de l'intermittence existe depuis de nombreuses années maintenant, voilà, depuis le début du XXe. Il est issu d'une négociation qui a trait à l'indemnisation chômage des salariés du privé, qui est négociée dans le cadre de l'UNEDIC, et donc des accords de l'UNEDIC et de la convention de l'UNEDIC. La particularité des annexes 8 et 10, c'est qu'elles s'adressent par rapport à la question du chômage, à des métiers qui sont structurellement exercés dans un cadre d'emploi qui est discontinu. Ça a son importance parce que la question du chômage, elle a été beaucoup traitée par rapport au compromis fordiste, qui était celui classiquement plutôt de l'emploi permanent et du CDI. Et donc le chômage a été conçu comme un accident du parcours. Ça a été le cas pour les intermittents pendant longtemps. Et la lutte autour des annexes 8 et 10 est vieille de nombreuses années, mais au cours de ces négociations, vraiment je rappelle, ce sont les annexes 8 et 10 attachées à la convention UNEDIC, au fur et à mesure, donc qui est renégociée hein, tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, je ne sais plus. Le phénomène de renégociation régulière fait que la question de l'intermittence a pu être posée à de nombreuses reprises. Et au fur et à mesure de ces négociations, il y a eu un déplacement de la question du non-salariat. C'est-à-dire que le chômage a plus été perçu comme un accident de parcours pour les gens qui travaillaient sous le régime de l'intermittence, mais comme quelque chose de structurel, de propre à leur métier. Il y a d'ailleurs une liste des métiers qui sont attachés aux annexes 8 et 10 et qui justifie ou qui légitime le fait de bénéficier de cette indemnisation au titre du métier que l'on exerce, qui doit s'inscrire dans le champ artistique et culturel au sens large, puisque je travaille essentiellement sur le secteur du spectacle vivant, un peu avec les artistes plasticiens qui sont encore un autre sujet, mais je travaille assez peu sur le secteur audiovisuel, dont la structuration est différente. Et donc, ce qui s'est passé, et là je vous renvoie à la thèse qui est en ligne d'ailleurs de Mathieu Grégoire, c'est qu'il y a eu dans les années 80 ce glissement qui s'est opéré entre une conception du chômage des intermittents comme étant un accident de parcours à quelque chose de structurel. Et la mécanique d'indemnisation a été modifiée. En s'appuyant sur la logique de solidarité interprofessionnelle de la convention UNEDIC, le mode de calcul de l'indemnisation et les niveaux d'indemnisation ont été augmentés et le mode de calcul a été facilité. Ce qui s'est traduit par donc une augmentation de la prise en compte des initiatives associatives de territoire par les subventions et en même temps des intermittents qui étaient en situation de salariat mais donc discontinue, c'est-à-dire que du coup, il y avait quand même déjà une indépendance par rapport à l'employeur. On change régulièrement d'employeur puisqu'on change régulièrement de projet. Le meilleur niveau d'indemnisation et la modification de la méthode d'indemnisation a permis que la précarité liée à ces métiers diminue nettement. Ce qui fait que... C'est toujours la question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu un si grand développement des associations artistiques et culturelles? On peut quand même prendre en compte la question de l'appétence quand même des personnes pour s'investir dans ce secteur-là. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est que ça a été largement facilité par le fait que les gens, les personnes qui travaillaient dans le secteur, n'étaient plus obligées de développer une polycompétence qui était à la fois interne au secteur et externe au secteur. Par exemple, on était avant beaucoup plus facilement, et notamment sur la question artistique à proprement parler, metteur en scène et informaticien. Il y avait cet aller-retour entre le secteur artistique et culturel et puis un secteur de salariat plus classique qui permettait de financer le travail propre à l'activité artistique et culturelle. Et ça, la modification de l'intermittence a permis qu'en fait, ces gens-là développent l'intégralité de leur parcours dans le secteur artistique et culturel. Ça ne veut pas pour autant dire, et j'insiste là-dessus, que ce parcours s'est développé exclusivement autour de la création. C'est-à-dire qu'on a bien quand même une diversification des métiers, mais c'est le secteur lui-même qui, d'un seul coup, a pu prendre en charge dans leur intégralité les parcours des personnes qui souhaitaient y faire leur vie. Ça a eu des implications très fortes et c'est là-dessus que finalement la question de l'économie sociale et solidaire s'est posée dans le secteur. C'est que la question du salariat s'est mise à poser, à l'endroit de l'intermittence, on peut le dire plutôt comme ça, la question de l'intermittence, elle a déplacé la question de ce que veut dire, du projet politique que recouvre la question de l'indemnisation. Si on ne prend que le chômage perçu comme accidentel, c'est tout à fait noble et légitime, mais ça occulte la partie spécifique de l'intermittence qui était la capacité à être porteur de projet et pas dans une précarité qui empêchait d'avoir accès à l'outil de production. Mathieu Grégoire, il fait cette analyse qui, je pense, a été vraiment repris à leur compte par les gens avec qui je travaille, mais aussi par la coordination des intermittents et précaires, par tout un tas de collectifs comme ça qui se sont saisis de la question de l'intermittence. C'était la question plus essentielle pour eux de l'indépendance, c'est-à-dire certes la question du choix de l'employeur, mais aussi l'autonomie dans le choix des conditions de production, c'est-à-dire la capacité à porter son projet, à construire son équipe, à être parfois chef de projet et parfois au service d'eux. Et ça induit la résurgence quand même, parce que ça date pas de cette époque-là, mais ça a réanimé ça dans le secteur, de la question de l'autonomie de la gestion et de la capacité, même si on est salarié, entre guillemets, à pouvoir gérer un projet de façon autonome. Alors, après, évidemment, l'association n'est pas un entrepreneuriat individuel. Ça reste un entrepreneuriat collectif, à la fois dans le sens où, et particulièrement dans le spectacle vivant, C'est un entrepreneuriat qui se fait autour d'une équipe. C'est la capacité des intermittents qui ne sont plus en situation de précarité et qui ne sont plus obligés de sortir du secteur non plus, de se réunir autour d'un projet et de recomposer ces équipes au fur et à mesure des projets, donc de construire un parcours professionnel aussi à travers des cercles différents de professionnels. C'est cette capacité-là qui a été mise en avant parce qu'évidemment, on ne touche pas toujours des subventions et contrairement à ce qui peut être répandu comme idée, les intermittents, dans leur conception de profiter du système de l'intermittence, c'est de développer une réelle polycompétence. Et dans la polycompétence, il y a effectivement différents métiers qui sont propres hein, au secteur artistique et culturel, être metteur en scène et être je sais pas, animateur, médiateur. On peut avoir tout un tas de métiers comme ça, mais aussi celui d'être en situation d'être chef de projet. Ça, c'est un métier en soi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on avait des gens qui étaient en situation de salarié qui se sont mis à gérer des associations, donc qui ont développé qui ont dû s'agréger des compétences en matière de gestion. Et là, évidemment, il y a une dialectique qui est maintenant permanente dans le secteur artistique et culturel à cet endroit-là, c'était de dire que comme c'est le fait qu'il y ait une baisse de la précarité dans ces moments où on n'est pas en salariat, qui permettent de développer un projet, c'est le développement de ce que nous on appelle une économie vivrière. C'est-à-dire que, effectivement, les projets sont financés pour ce qu'ils sont, et le salariat est financé pour ce qu'il représente comme travail. Mais il n'y a pas de logique conquérante, et il n'y a pas de logique concurrentielle, et il n'y a pas de logique réelle de marché, particulièrement en plus parce que bon, alors, la majorité des gens, en tout cas avec qui moi je travaille, ne considèrent pas qu'une œuvre artistique et culturelle ou qu'un atelier de médiation puisse être remplacé par un autre. Et donc c'est cette dimension à la fois artisanale et en même temps indépendante, mais qui a bénéficié d'une structure de protection sociale plus favorable, c'est-à-dire qui ne pointait pas la question du chômage comme un retour systématique sur le marché du travail, mais qui permettait de ne pas y être renvoyé et d'avoir le temps de développer ses propres projets, qui a vraiment croisé les enjeux d'économie solidaire au sens de l'émancipation des forces de travail et de leur capacité à maîtriser les projets et à avoir des outils de production à leur disposition. Moi aussi j'avais dit vite, hein, c'est ça ? J'ai encore un peu de temps. Tout ça pour dire que du coup, vous êtes probablement difficilement passé entre les gouttes de ce qu'on a pu voir étaler dans les journaux et dans les télés sur la question de l'intermittence et de la question du profit. Donc il y aurait des salariés qui profiteraient d'un régime qu'on appelle statut, tout à fait à tort, et je vais revenir sur cette question, au dépens d'autres salariés qui cotisent dans cette caisse commune qui est la caisse de l'UNEDIC. Alors, il y a deux façons de répondre à la question. Il y a la réponse économique qui a été donnée par un certain nombre de ministres, d'ailleurs, en disant le secteur artistique et culturel est un secteur qui rapporte gros, 1 euro investi, 3 euros rétribués sur les territoires. C'est une conversation économique en tant que telle. Mais la défense des intermittents, elle ne s'est jamais située à cet endroit-là. La défense des intermittents, elle s'est située d'abord, sur la question des droits fondamentaux. Est-ce que les personnes qui sont en situation structurelle de non-salariat doivent être renvoyées à la précarité au prétexte qu'elles ont fait le choix d'exercer des métiers qui sont, eux, structurellement organisés dans un espace de production de façon discontinue? La réponse que nous on donne, c'est évidemment qu'on ne peut pas renvoyer à l'individu la responsabilité de sa protection seule face à un environnement qui organise structurellement le chômage. Et la deuxième question, c'est de dire, est-ce qu'on peut, quand on prône la solidarité interprofessionnelle, pointer du doigt la population la plus fragile, qui par définition, lorsqu'on parle d'indemnisation du chômage, est la population qui va coûter la plus cher ? Là, on parle des intermittents du spectacle, évidemment, ça sollicite un imaginaire qui est divers et varié. Alors ça va de l'artiste maudit qui trouve l'empreinte poétique dans la précarité, à l'artiste rockstar qui devrait être entrepreneur de lui-même et gagner, conquérir les marchés des audiences maintenant mondialisées. Peut-être que l'entre-deux pourrait être le fait de considérer non pas la question de la création artistique, mais du travail de création artistique, qui sont vraiment deux choses différentes. Et c'est vraiment là-dessus que je tiens à citer. Les gens qui travaillent, et notamment qui sont indemnisés aux annexes 8 et 10, ne sont pas, n'ont pas un statut qui leur serait donné et duquel ils pourraient se revendiquer en permanence. Ce sont des gens qui justifient le fait d'avoir le droit de cette indemnisation en travaillant à travers des mécanismes de production sur lesquels on a posé un mécanisme d'indemnisation spécifique. Si ça avait été un statut, la question aurait été complètement différente. Mais là, on est bien d'accord que les salariés comme les employeurs du secteur artistique et culturel, par exemple, ont accepté de cotiser deux fois plus, chacun de chaque côté, que le reste des autres secteurs privés pour faire amende honorable sur le fait que effectivement notre secteur aurait toujours un chômage structurel du fait de l'organisation par mode de projet. Donc renvoyer à une catégorie de la population la responsabilité du coût social qu'est la précarité, c'est poser la question de la précarité au sens de renvoyer quand même la personne à une responsabilité de la pauvreté. Et c'est ça qui a, je pense, le plus blessé, et je pense que c'est ça qui a généré le plus de violence pour les personnes qui ont vécu toutes les luttes, c'est que c'est des gens qui ont lutté pour l'indépendance et l'autonomie des travailleurs, et pas pour un statut privilégié. Et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est ce que nous a appris le secteur artistique et culturel, et que du coup les formes de production, mais aussi les outils de production, notamment que sont les associations, et notamment en revendiquant un statut non lucratif, ont contribué pour ces travailleurs-là à pouvoir se saisir d'autant plus, se saisir de la question de la gestion, c'est-à-dire à ne pas cantonner la question de l'autonomie à la question de l'indemnisation. Voilà.
Mm-hmm.